John King, l'aventure d'un impressionniste. Un podcast réalisé par des élèves de 4e de la Charité sur Loire. On croyait que c'était un espion à cause de son drôle d'accent, mais John King, c'était un peintre qui voulait devenir célèbre. C'est un des inventeurs de l'impressionnisme. C'est une femme qui l'a motivé à vendre ses tableaux. Elle s'appelle Madame Fesser. Et ici, elle raconte l'histoire de John King et de leur relation à une amie qui s'appelle Anne.
C'était en 1860. J'ai rencontré John King chez le père Martin, un brocanteur et marchand d'art que j'avais connu à Nevers. J'avais insisté pour qu'il nous présente.
Mais dis-moi, comment êtes-vous devenus amis ?
On est devenus amis car j'admirais beaucoup son œuvre. Moi aussi, j'aimais dessiner et j'étudiais la peinture. Alors, il me donnait des conseils pour me faire progresser. En échange, j'ai décidé de m'occuper de lui. Il avait une santé fragile et il buvait trop. Il fallait l'aider à retrouver une vie saine, et aussi à mettre ses tableaux en valeur, parce qu'il acceptait de les vendre pour une bouchée de pain.
Et tu avais une relation avec lui ?
Non, j'étais mariée, vous le savez bien, avec Jean-François Alexandre. Nous avons de bonnes relations, mais je ne supportais pas la vie à la campagne. Il a bien voulu que je m'installe à Paris, avec Jules, notre fils. Nous avons beaucoup voyagé. À l'été 1861, j'ai proposé à John King de m'accompagner dans le Berry. Il a tout de suite accepté. Découvrir de nouveaux paysages le rendait joyeux comme un gosse.
Que faisait-il pendant ses voyages ?
De grand matin, il partait avec son chevalet et ses carnets pour peindre dehors, directement sur le motif. Il aimait ça. À notre époque, les inventions sont incroyables. Tenez, grâce à la nouveauté de la peinture en tube facile à utiliser et pas trop chère, on pouvait désormais peindre en plein air. Plus besoin de rester enfermé dans l'atelier. John King braillait.
Ah ! Les lumières, regarde. Et les couleurs, comment les reproduire ?
Et il partait sur les chemins de campagne.
Élodie Sacquin, professeur d'art plastique à la Charité sur Loire.
Alors ça, c'est sa technique. Il n'y est pas venu tout de suite, mais il a beaucoup aimé le travail de l'aquarelle. Et l'aquarelle permet d'aller en extérieur. Il aime beaucoup faire des petits croquis rapides, des aquarelles rapides. Ce qui lui a permis après de les utiliser pour réaliser des peintures. Donc bien souvent, avant les peintures elles-mêmes, il y a les aquarelles. Et donc il y a tout ce travail sur la lumière.
Alors du coup, est-ce que le Berry vous a plu ?
Hélas, la joie n'a pas duré longtemps, à cause des gens du village qui colportaient des ragots et critiquaient notre manière de vivre. C'était gênant pour mon mari et ça me rendait folle. Nous avons donc décidé de nous installer à Saint-Paris, chez un ami de mon mari. John King restait dehors très tard pour observer le ciel et la lumière. Je me souviens qu'il adorait peindre le château de Rosemont, mais il a bien fallu rentrer chez nous.
Vous n'y êtes pas retourné plus tard ?
À Nevers, oui. Quand la guerre a été déclarée et que les Prussiens sont arrivés, ils ont fait le siège de Paris à la fin de l'été 1870. John King a pris peur. Nous sommes partis pour Nantes, moins menacés. Mais l'accent hollandais de John King a éveillé les soupçons. Nos voisins ont commencé à nous regarder de travers et à le soupçonner d'être un espion. John King se sentait persécuté, il n'osait plus sortir. Finalement, Nevers, n'était-ce pas le lieu idéal pour s'éloigner de la guerre et de la menace ? Je me rappelle d'une lettre qu'il avait envoyée à mon fils, à cette époque, et où il écrivait
« Moi, je sors très rarement. Je m'occupe à faire quelques souvenirs de dessins à l'aquarelle, mais je me porte pas très bien, et n'ayant pas mes amis de Paris, j'ai beaucoup d'ennuis. »
Avec le printemps et l'évolution de la situation politique, il a retrouvé un peu d'énergie. Il a commencé à remplir des carnets d'études et à explorer les environs. À ce moment, il se fichait bien de peindre pour gagner de l'argent. Il était en quête d'un dessin et d'une peinture moins réaliste. Ce qu'il cherchait, c'était exprimer ses propres impressions, ses émotions devant les paysages qui lui plaisaient. Parfois, tout était suggéré en quelques traits. J'étais fascinée. Je me souviens des balades qu'on a fait à Pouglezo et à Saint-Paris pour peindre et dessiner.
Mais vous êtes bien revenu à Paris, non ?
Oui, en 1871. Mais avant cela, nous avons fait une halte à la Charité-sur-Loire. John King ne connaissait pas cette petite ville si pittoresque et nous y avons passé des heures formidables. Nous étions installés à l'hôtel du Grand Monarque. De là, il était facile de circuler à pied. Je me souviens que nous avons passé du temps dans la rue des Hôtelleries, la rue du Pont et sur les quais d'où il voulait peindre la Loire et la ville. C'est au cours de ce premier séjour qu'il a dessiné le pont de la Charité-sur-Loire. C'était le 23 mars, il faisait beau et doux.
Je n'ai jamais vu cette aquarelle. À quoi ressemble-t-elle ?
Pont de la Charité-sur-Loire, 23 mars 1871. Ce dessin aquarellé représente une vue panoramique de la Charité-sur-Loire. Le dessin mesure 35 cm de long et 17,5 cm de large. Il se trouve dans une collection particulière. On observe au premier plan de grandes pierres et la route qui mène vers la Marche en longeant la Loire. Cette route est bordée de murs de chaque côté. À gauche de la chaussée, on distingue d'abord un arbre nu, puis la végétation qui déborde des jardins. On devine des passants en train d'avancer sur la route, en groupe ou seuls. D'autres sont assis dans l'herbe et semblent admirer la Loire. Au deuxième plan, on aperçoit la silhouette élancée de la tour de l'église, entourée de petites habitations. À droite, sur les deux tiers de la page, on voit la Loire. Au loin, il y a le pont en pierre de la Charité, composé de 10 arches. Au bout de ce pont, qui permet de passer de la Nièvre au Cher, on devine aussi un troupeau de petites maisons sur l'île du Faubourg. La Loire est large. Elle occupe une grande partie de l'espace dans le premier tiers du papier. Le ciel, un peu nuageux, occupe presque les deux tiers hauts de la page. On distingue la signature de John King en bas à gauche, le lieu et la date tout à fait à droite.
Et les charitois, appréciaient-ils John King ?
Oui, il venait le voir, l'interroger, et quand il rentrait au café à la fin de la journée, on lui tapait sur l'épaule comme s'il était du coin. Il aimait cette ambiance chaleureuse. Alors, nous y sommes revenus en 1872. Le souvenir de la Nièvre adoucissait les jours de John King, souvent pris de crises d'angoisse. C'est pourquoi nous avons pris l'habitude d'y passer du temps chaque été jusqu'en 1875. Mon mari y était aussi. Il s'était installé à l'hôtel Saint-Louis à Nevers. John King sortait tôt, il rentrait ravi. Il discutait facilement et les gens rigolaient de son accent. Il avait toujours aimé les enfants et les gosses avaient pris l'habitude de le rejoindre quand il peignait la porte du Crou ou la rue Saint-Genet. Après cela, John King aimait bien aller boire un petit verre et discuter chez Rochette, qui tenait un café rue de l'Embarcadère. Il a toujours pensé que je ne le savais pas. Enfin, je crois. Il allait souvent manger des gâteaux au 56 de la rue du Commerce, chez son amie Madame Linert, une Flamande qui avait installé sa pâtisserie à Nevers. Ils discutaient de leur enfance et de leur pays. Il avait aussi sympathisé avec d'autres peintres qui travaillaient dans la Nièvre.
Comment dessinait-il à l'époque ?
Toujours avec vigueur, hâte et plaisir. Au cours de ces années, son style s'est franchement affirmé, épuré. Il a fait de très belles œuvres à partir de ses esquisses.
Élodie Sacquin, professeur d'art plastique à la Charité-sur-Loire.
Donc justement, on parlait de lumière. Il a une capacité à travailler par touches, fragmenter, à travailler cet aspect lumineux, à utiliser aussi les réserves de la toile, c'est-à-dire il y a un aspect parfois non fini. Et on n'est plus dans l'aspect réaliste tel qu'il était utilisé auparavant dans la peinture, c'est-à-dire avant lui, beaucoup de peintres travaillaient de manière très léchée avec une touche du pinceau assez, on va dire, assez lisse. On ne devait pas voir les coups de pinceau. Et puis, John King, lui, s'est permis justement de prendre du recul par rapport à ça. Il a travaillé en extérieur, sur la nature. Et puis, c'est la lumière elle-même et non plus le paysage, au bout d'un moment, qui l'intéressait. Ça a aussi permis d'avoir une peinture très différente, finalement. Même si nous, on ne voit pas beaucoup la différence quand on regarde les paysages. À l'époque, c'était déjà une grande avancée.
Mais qu'en était-il de votre mari ?
Hélas, mon mari est tombé bien malade en 1875. Après sa mort, nous ne sommes plus revenus dans la Nièvre. Mon fils s'est marié et s'est installé près de Grenoble. Avec John King, nous l'avons rejoint. Mais John King n'a jamais oublié nos séjours dans le centre de la France. La preuve, dans les années 1880, il a repris ses pinceaux pour peindre un dernier attelage de bœufs en Nivernais.
Ce podcast a été réalisé par des élèves de 4e de la Charité-sur-Loire. À la prise de son interview,
Noah.
À la narration,
Manon, Sarah, Lucas et Eliès.
Aux voix additionnelles,
Clément, Eliès, Lucas et Safa.
À la technique,
tout le monde a participé à la technique et Thibaut s'est occupé du générique. Nous remercions toute l'équipe de la Cité du Mot, Émilie, Graham, Lucie, André, Camille, Fanny, Thibaut et notre professeur de français, Lise Duva. Merci aussi à la radio Bac FM.
Vous pouvez aussi écouter les podcasts de nos camarades sur d'autres personnages célèbres.
Bussira Butin, Paul Gisson et Auguste Grasset.
Merci d'avoir écouté notre podcast et partagez-le avec tous vos proches.